Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير خلق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi soir de novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le plan de l'Iran pour mettre fin au conflit du Haut-Karabakh, les FT sont enlevé un grand nombre de civils dans les campagnes de Raqqa et de Hasakeh en Syrie, et le nouveau gouvernement sénégalais, composé de 33 ministres et 4 secrétaires d'État, est formé par le président sénégalais Macky Sall. C'était les titres. En voici le journal. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que le plan iranien pourrait mettre fin au conflit du Haut-Karabakh. Le plan iranien est basé sur une série de principes internationalement acceptés, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le principe de l'inviolabilité des frontières, la fin de l'occupation, le respect des droits des minorités et le retour des réfugiés, a déclaré Abbas Araghchi, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une interview avec la chaîne ITV de la République d'Azerbaïdjan, précisant « Une vision réaliste, une approche régionale et la participation aux deux pays influents de la région sont les caractéristiques du plan de l'Iran. La participation régionale peut résoudre ce problème et réaliser les revendications des deux parties. Dans cette situation tragique, notre devoir est de considérer tous les efforts que nous pouvons faire et toutes les idées qui peuvent marcher. La proposition de l'Iran a été présentée de bonne foi et peut mettre fin aux pertes humaines et aux dégâts financiers », a ajouté Araghchi, et de poursuivre « Si toutes les parties sont de bonne foi et que l'intervention de certains pays extérieurs qui cherchent à détruire nos relations régionales est empêchée, nous pouvons obtenir des résultats. » Décrivant la position constructive et pacifique de la République islamique d'Iran à propos de ce conflit, M. Araghchi a précisé « Depuis le début de la reprise du conflit, nous avons commencé nos contacts pour mettre fin à la crise. La position de l'Iran a toujours été de soutenir l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan, de s'opposer à l'occupation et de mettre l'accent sur la libération des territoires occupés. » Le mouvement irakien Al-Nujaba a insisté sur la lutte contre les tentatives britanniques de maintenir le contrôle de l'espace aérien du pays. Le secrétaire général adjoint du mouvement Al-Nujaba, Nasr al-Shamari, s'est opposé aux efforts visant à prolonger le contrat de la Société britannique des services de navigation Serco en Irak. Al-Shamari a écrit dans un tweet « Nous nous opposerons constamment aux efforts visant à prolonger le contrat de la société privée Serco qui contrôle l'espace aérien irakien. En Irak, il y a du personnel national formé, qualifié et prêt à l'emploi. » Et nous n'avons pas besoin d'étrangers pour contrôler l'espace aérien du pays, a affirmé le responsable d'Al-Nujaba. La question du renouvellement du contrat signifie, affirme Al-Shamari, la légitimité de l'occupation britannique à long terme, et c'est ce que nous ne le permettrons jamais. La société britannique Serco a pour mission de donner de vastes services dans le domaine sécuritaire, militaire, du transport, de la logistique, de la gestion des centres de détention, des prisons et des écoles, et en même temps des contrats en tant qu'opérateur dans plusieurs métros et aéroports à travers le monde. L'espace aérien irakien est sous le contrôle de Serco depuis 2011, et date à laquelle il a signé un contrat de 15 ans avec l'Irak. En Syrie, les FTS, soutenus par les forces d'occupation américaines, ont poursuivi leur politique criminelle contre les citoyens dans les zones qu'elles occupent, Al Jazeera, où elles ont enlevé un certain nombre de civils dans les campagnes de Raqqa et de Hasak. Dans la banlieue de Hasak, des sources locales ont indiqué aux correspondants de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne, que les FTS avaient pris d'assaut des maisons de la ville de Markada, au sud de Hasak, et kidnappé ensuite des civils avant de les transférer dans des endroits inconnus. De même, des sources locales dans la banlieue de Raqqa ont déclaré à Sana'a que la milice avait enlevé un certain nombre de jeunes dans la région d'Al-Karama, à l'est de Raqqa. Les FTS ont aussi forcé manu militari des dizaines de familles qui habitent dans le quartier d'Al-Omran dans la ville de Hasak à abandonner leur maison, et ce un jour après avoir occupé des dizaines d'appartements dans d'autres quartiers de la ville. Et cela a causé le déplacement des dizaines de familles, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Des sources civiles à Hasak ont indiqué que la milice avait privé des milliers d'enfants de l'éducation après avoir pris le contrôle des écoles pour les transformer à des QG militaires. Ils ont déplacé des dizaines de familles de leurs maisons et pris d'assaut à plusieurs reprises les localités et villages dans les banlieues du gouvernorat et kidnappé de nombreux jeunes hommes. Des colons israéliens ont pris d'assaut à nouveau. Le dimanche 1er novembre, la mosquée d'Al-Aqsa, sous la protection des forces d'occupation. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que 47 colons avaient pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa depuis la porte des Maghrébines et fait des tournées provocatrices dans ses cours, sous une garde stricte des forces d'occupation. Par ailleurs, un certain nombre de Palestiniens ont été blessés dimanche à la suite d'une attaque menée par les forces d'occupation israéliennes dans la localité de Doura, au sud d'Al-Khalil, en Cisjordanie. Les forces d'occupation avaient pris d'assaut la localité au milieu du lancement des bombes sonores et du gaz toxique, ce qui a causé des cas de suffocation parmi nombre de Palestiniens. À noter qu'un certain nombre de Palestiniens avaient été blessés la veille samedi par une attaque menée par les forces d'occupation contre la localité de Beit Amer, au nord d'Al-Khalil. Ouvrons la page de l'actualité africaine. Un nouveau gouvernement sénégalais est composé de 33 ministres et 4 secrétaires d'État est formé ce dimanche 1er novembre par le président sénégalais Macky Sall. Il est marqué par une ouverture à une partie de l'opposition et un rajeunissement de l'équipe gouvernementale. Sept nouveaux ministres ont fait leur entrée dans le gouvernement, dont le leader du Parti des libéraux et démocrates, Oumar Sarr, et le numéro 2 du parti Rêvmi, deuxième à la présidentielle 2019, Yankuba Diatara. Des personnalités de la mouvance présidentielle ont quitté le gouvernement. Parmi les 37 membres, il y a 8 femmes, dont Aissata Tall Sall en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le Tchad devrait se doter d'un Sénat et d'un vice-président selon les résolutions et recommandations du deuxième forum national inclusif qui s'est achevé dimanche dans la capitale N'Djamena. Le Tchad opérait ainsi pour un parlement bicaméral, une chambre basse qui est l'Assemblée nationale et une chambre haute, le Sénat, qui viendra remplacer le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Le poste de vice-président serait créé par décret présidentiel. Le vice-président sera un fonctionnaire comme tous les autres et pourra être démis de ses fonctions à tout moment par le président de la République. Parmi les 28 résolutions et recommandations prises par le forum, il y a également le rétablissement de la Cour suprême et du médiateur de la République, supprimé il y a 2 ans. La baisse de l'âge minimum pour être candidat à la présidentielle de 45 ans à 40 ans, entre autres. Le président tchadien Idriss Déby s'est félicité de toutes ces résolutions et a promis de les traduire en actes. Le deuxième forum national inclusif a réuni du 29 octobre au 1er novembre à N'Djamena les forces vives de la nation ainsi que des délégations de la diaspora et des mouvements politico-militaires. En 2018, un premier forum national inclusif avait débouché sur l'instauration de la 4e République, supprimant le poste de Premier ministre et conférant l'intégralité du pouvoir exécutif au président de la République. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Séisme dans le camp pro-US. Au nord, Ankara se retire, au sud, Israël se fait petit. Assad a-t-il enterré l'armée de l'air israélienne? Des sources militaires russes font état d'un changement radical de paradigme en Syrie centrale et occidentale qui, pour être une information stratégique, n'en reste pas un aveu d'échec d'Israël. Le système de défense aérienne iranien Bavar 373 s'est avéré être meilleur que le S-400 russe. Israël a cessé de frapper la Syrie. Que se passe-t-il au juste? Cette semaine, les Jordaniens qui accueillaient une délégation de haut rang russe conduite par Lavrentiev lui auraient demandé de trouver un mécanisme pour ouvrir le poste frontière Nasib Jaber avec la Syrie, manière de rétablir la route entre Damas et Amman. Le journal jordanien Al-Rad est allé jusqu'à écrire « La Jordanie a choisi de diffuser ses messages via les Russes, comme s'il adressait aux garants des Syriens dans le dossier des relations jordano-syriennes ou à la partie qui a une influence sur le côté sécuritaire en particulier. Surtout, après les anciens rôles que les Russes ont joués avec la Jordanie en ce qui concerne les défis des zones frontalières jordano-syriennes et les craintes d'Aman de voir sur ses frontières non pas l'armée syrienne, mais ses alliés pro-Iran comme le Hezbollah. Est-ce la demande de la Jordanie ou de la partie qui n'a cessé depuis toutes ces années à utiliser le ciel jordanien pour frapper le territoire syrien? Ces demandes jordaniennes reflètent, selon des sources bien informées, les conditions israéliennes qui, après la fuite des informations sur l'arrivée des émissaires de Trump à Damas pour supplier Assad de mettre en liberté des prisonniers de guerre US en échange d'un retrait d'Al-Tanf, se trouvent en état de totale panique. Or, cette panique ne va pas sans rapport avec Bavar 373 qui a fait son apparition dans l'Est syrien et selon le site militaire russe Aviapro, à T4 à Homs. La Russie cite trois raisons pour expliquer le pourquoi de cette panique. Les capacités des systèmes de défense aérienne iraniens, parfaitement indépendants des systèmes connus des Occidentaux, sont inconnus et cette méconnaissance élargit le risque de tout face à face. Et puis, l'Iran, contrairement à la Russie, ne prendrait aucune précaution et attaquerait les avions israéliens, même s'ils sont en dehors de l'espace aérien syrien. Et qui plus est, contrairement aux radars S-300, les radars iraniens ne sont pas contrôlés par l'armée russe, ce qui permet à l'Iran de suivre de manière indépendante les cibles en approche. Si Israël tenterait une attaque contre la Syrie, il se pourrait qu'il le fasse très soigneusement et probablement à une distance soi-disant hors de portée des systèmes de défense aérienne iraniens. Or, dans ce cas aussi, la Dessa Made in Iran de la Syrie pourrait attaquer les F-16 israéliens sur le chemin de leur base, comme ce fut le cas en février 2019.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 1er novembre 2020. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a prononcé vendredi un discours à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le très vénéré Mohammed, que la paix soit sur lui et sur ses descendants. Dans son discours, Saïd Hassan Nasrallah a fermement condamné l'attentat de jeudi à Nice, tout en soulignant que l'islam condamne de telles actions commises par des groupes et des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam ni avec les musulmans. Le leader du Hezbollah a par ailleurs noté en effet que les puissances occidentales portaient également une responsabilité dans ce type de violence en raison de leur rôle dans la région du Moyen-Orient et surtout de leur soutien au groupe terroriste des Takfiri. Saïd Hassan Nasrallah a par ailleurs estimé que la publication des caricatures blasphématoires du prophète Mohammed constituait une agression et que l'entêtement du président français Emmanuel Macron à ne pas y renoncer était une déclaration de guerre à près de 2 milliards de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce discours important, plutôt sur cet avertissement, en effet, sérieux du secrétaire général du Hezbollah à l'adresse de la France d'Emmanuel Macron. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le mouvement de la résistance islamique du Liban, Hezbollah, a fermement condamné le soutien du président français à la publication de caricatures sacrilèges du prophète Mohammed. Le secrétaire général du Hezbollah a condamné le meurtre de 3 personnes dans la ville française de Nice, mais a déclaré que les dirigeants occidentaux étaient également responsables de ces crimes en raison de leur rôle dans les conflits au Moyen-Orient, tout en appelant la France à assumer ses responsabilités pour son soutien au groupe Takfiri.
Je vais citer l'exemple du problème actuel qui divise le régime français et les ressortissants musulmans. Nous commençons par le dernier incident à Nice. Un musulman a tué 3 Français et en a blessé d'autres. Tout le monde a condamné cet incident. Les ulémas, tout comme les instances religieuses musulmanes, ont rejeté cet acte. L'islam en tant que religion récuse toute forme d'agression contre les innocents. Cet acte est condamnable et rejeté, que ce soit en France ou ailleurs. Aux autorités françaises, je vous appelle à réfléchir à votre responsabilité dans la mise en place des groupes terroristes et takfiristes qui adoptent la politique du meurtre et de la décapitation pour des divergences politiques ou religieuses. Vous avez financé, soutenu et équipé ces groupes terroristes. Pourquoi vous êtes étonné d'assister à un acte de décapitation ?
Le secrétaire général du Hezbollah a par ailleurs décrit la position du président français comme une déclaration de guerre contre l'islam et les musulmans. Pour Saïd Hassan Nasrallah, les autorités françaises se sont impliquées dans une guerre globale contre les musulmans. Au lieu de régler l'incident, la France s'entête et campe sur sa position. Elle a décidé de continuer la publication des caricatures contre le prophète au nom de la liberté de l'expression.
Au lieu de travailler sur les conséquences, allez vous attaquer à la cause du problème. Ce qui s'est passé malheureusement, c'est que les autorités françaises, au lieu de résoudre le problème, sont entrées ou ont déclaré une sorte de guerre sous prétexte de la liberté d'expression et en s'obstinant à continuer avec les caricatures injurieuses. Quel message envoyez-vous aux 2 milliards de musulmans dans le monde ?
S'exprimant à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, Saïd Hassan Nasrallah a souligné que les musulmans ne toléreraient aucune insulte contre le noble prophète de l'islam. Nasrallah a souligné que contrairement à ce que prétend le président français, il n'y a pas de terrorisme islamique ou de fascisme islamique. Il a indiqué que le gouvernement français ne peut pas tenir l'islam ou les musulmans comme responsables des crimes de l'individu, tout comme le christianisme ne peut pas être blâmé pour les actes de terrorisme commis par les États-Unis.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre Dortier, philosophe et politologue français, et depuis Paris, Madame Aïssa Midani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Midani, bonjour, merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour à Monsieur Dortier et à tous les spectateurs.
Madame Midani, dans son discours, le secrétaire général du Hezbollah a été très clair et même clairvoyant. Alors, concernant l'attitude et le comportement des autorités françaises et surtout alors l'usage par le président français du terrorisme islamique, du fascisme islamique, Seyed Hassan Nasrallah a souligné que ces notions en effet n'existaient pas. Pour Seyed Hassan Nasrallah, alors... quand un individu commet un crime, il ne faut pas justement emporter la responsabilité à sa religion. Par exemple, il a cité lorsque les États-Unis ont commis en effet des crimes atroces dans la région du Moyen-Orient, les musulmans n'ont pas apporté la responsabilité de ces crimes au christianisme. Alors, pourquoi les autorités françaises, en ce qui concerne justement l'islam et les musulmans, et en l'occurrence le président français, se sont laissés emporter dans ce type d'amalgame?
Effectivement, le Samahat Cheikh Nasrallah, il a été très ferme et très calme, en fait, en même temps avec un ton très grave, qui relate ces faits, les faits cette attitude du président Macron, cette attitude en France aussi qui vise à transformer tout acte terroriste en acte qui est anti-musulman et qui jette de l'huile sur le feu aussi dans les qui clairement montre et essaye de provoquer une guerre contre les musulmans et contre l'islam. En fait, il a aussi il a fait état de ces justement de ces crimes, des crimes qui ont été commis par les Américains, qui sont commis par les Français et par tous les pays occidentaux contre nos pays. On n'a jamais accusé les religions comme étant celles qui dictent ces crimes. En réalité, ce qui était très très important dans ce discours de M. Nasrallah, c'est qu'il a condamné et il a dit pour le passé et pour l'avenir et pour le présent, tout acte de terrorisme est condamnable et nous le condamnons et il est absolument anti-humain et il faut qu'il soit puni. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est important justement qu'on ne porte pas comme responsable toute personne qui commet un acte terroriste ou qui commet un crime de généraliser à l'ensemble des gens qui portent la même religion à ce crime. Et ça, c'est une généralisation qui est en elle-même en fait contre l'humanité et qui est non seulement abusive mais qui ne sert effectivement à accuser les autres et à créer des problèmes et à offenser surtout l'ensemble de la population qui porte cette religion. Un troisième point, il est important aussi qu'il y ait une règle générale au niveau de l'éthique, au niveau de la liberté, parce qu'il parlait de la liberté d'expression dont Macron a prétexté pour laisser courir les caricatures blasphématoires. Il a dit qu'elle était hors de question et c'est important qu'il y ait une règle générale de respect de l'ensemble des religions, du respect de l'ensemble des peuples du monde et que pour cela, il est important qu'il y ait une règle au niveau des médias et au niveau de l'ONU, en fait, qui incrimine ce type d'accusation. Et ceci dit, il a aussi montré que c'est un false flag du côté de Macron, puisque pour la liberté, la même liberté d'expression, ils avaient interdit les livres de Roger Garaudy, qui avait tout simplement fait une étude et une recherche sur la véracité de la Shoah ou pas. Et de la même manière, moi j'ajoute qu'il y a eu aussi récemment un lynchage du chanteur et du comédien en France, en fait, qui cherchait justement, qui avait parlé d'Israël tout simplement, et le lynchage aussi d'un professeur d'histoire qui a tout simplement demandé à ce qu'il y ait des recherches supplémentaires, et qui a proposé à ce qu'il y ait des recherches supplémentaires en ce qui concerne la véracité de la Shoah et des Fouragas. Donc ça veut dire, il a mis en exergue justement cette liberté d'expression entre guillemets, qui est à deux poids deux mesures, et qui en fait effectivement vise les peuples musulmans, qui pourraient viser, et qui ont visé aussi dans le par le passé les responsables ou les chefs catholiques et des chefs religieux chrétiens, mais jamais on ne peut s'attaquer ni à la Shoah, qui n'est pas une religion d'ailleurs, et alors qu'on ne sait pas, et les personnes ne se sont même pas attaquées à la religion juive, mais il propose justement tout simplement des études supplémentaires.
Merci, Madame Idani. Merci.
Ça, c'est très grave.
Merci pour ces éclairages, Madame Idani. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Vodabandé. Bonjour à tous vos auditeurs, et particulièrement, bien sûr, à Madame Idani, qui a vraiment fait un excellent exposé.
Madame Idani l'a rappelé à juste titre, Monsieur le professeur, toute forme de terrorisme est condamnable au-delà de toute appartenance religieuse, ethnique, et au-delà même, en effet, de toutes les frontières, d'autant plus que le terrorisme n'a pas de frontières. Alors, la question qui se pose, d'abord, pourquoi les autorités françaises se sont laissées entraîner avec toute la France pour citer justement cet assassin Nasrallah, dans une guerre globale contre les musulmans. Et ensuite, si c'est par, dans l'optique des autorités françaises, c'est par souci du respect de la liberté d'expression, pourquoi, lorsqu'on touche à Israël, cette liberté d'expression s'arrête? En d'autres termes, pourquoi même en France, l'antisionisme est en effet considéré comme équivalent d'antisémitisme?
Eh bien, justement, cela provient de ce que le pays est très affaibli du point de vue économique, du point de vue financier. Il n'a donc pas lui-même la maîtrise de ses propres sens, de sa propre raison. Et qui fait que le président de la République, qui lui-même, je le signale, comme j'ai été moi-même un ancien élève des pères jésuites, ne peut pas, disons, certainement peut-être, exprimer le fond de sa pensée. Et ceci est extrêmement grave, car c'est la faiblesse dans laquelle nous sommes qui fait que nous sommes devenus des instruments, justement, de ces forces obscures qui ont intérêt à développer des sentiments d'insécurité à l'intérieur des Français, à cultiver une lutte civile pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ceci en deux secteurs, non seulement dans la gauche, parce qu'actuellement le gouvernement est plutôt, disons, d'orientation de gauche socialiste, puisque même le Parti communiste avait demandé à voter pour le président de la République actuelle, mais également dans une certaine opposition qu'on appelle identitaire de droite, très hostile aux musulmans, et qui, bien sûr, couplé avec des agents, bien sûr, de l'entité sioniste, chacun le sait, c'est un secret de polichinelle, bien sûr, tout le monde le voit. Et donc, nous sommes entraînés, malgré nous, voyez-vous, vers, disons, une pente fatale. Et je dois dire que les autres peuples européens sont moins atteints, quand même, que nous. Et nous voient, disons, nous précipiter dans cette chute, c'est-à-dire dans une sorte de lutte civile. Et alors, disons que nous ne disons pas la vérité. Je précise un point, c'est que, par exemple, l'archevêque de Toulouse, qui est Mgr Robert Le Gall, a dit que la liberté d'expression a des limites, qu'on ne peut pas se permettre, je le cite, de se moquer des religions. car on voit les résultats que cela donne. Eh bien, ce monseigneur Robert Le Gall, notre archevêque, disons, de Toulouse, a été contredit violemment par certaines personnalités que je ne peux pas citer par discrétion, mais disons, exactement comme dans ces périodes de lutte anticléricale du début du XXe siècle, voyez-vous, où on faisait la chasse aux curés. C'est-à-dire que le pays retourne véritablement à une situation antérieure que chez nous, j'ai été témoin de ces événements, en 1958-60, quand le général de Gaulle est venu, nous avons, disons, conclu des pactes de tolérance mutuelle entre la religion catholique, par exemple, la protestante, et l'enseignement de l'État. Aujourd'hui, au contraire, sous prétexte de lutter contre le fanatisme, en réalité, il s'agit de propagande anti-religieuse, voyez-vous, à l'intérieur, sous prétexte de, d'instruction civique ou autre, à l'intérieur des établissements d'enseignement. Ceci est un grand pas en arrière par rapport aux gens de l'époque du général de Gaulle, de M. Pompidou, de Giscard d'Estaing, de M. Chirac, etc. Voyez-vous, je crois que cette liberté que se donnent des agents d'une puissance étrangère, vous venez de citer, eh bien, elle n'est possible qu'à cause de l'affaiblissement économique et moral dans lequel nous sommes. Et je dois dire que si M. le Président de la République n'a pas certainement été à la hauteur de ce que chacun attendait dans le monde, c'est que peut-être lui-même, disons, est prisonnier justement de cette sorte de machine infernale, voyez-vous, et que la France, évidemment, devra certainement assumer les conséquences d'un affaiblissement notable.
Merci, monsieur le professeur, restez avec nous. Bien sûr, la France devra assumer la responsabilité, les responsabilités de ces actes. Justement, dans ce contexte, la responsabilité de la France, Madame Bidani, quelle est la part de responsabilité de la France dans, en effet, ce type de violence, ce type d'action terroriste en Occident, d'autant plus que non seulement la France, mais aussi, alors, de nombreux pays européens ont mis en place les groupes terroristes, les ont financés et les ont armés, notamment en Syrie. Ceci étant dit, justement, quelle est la part de responsabilité de ces pays européens, en l'occurrence la France?
Justement, je crois qu'il est important de rappeler quand même aussi que pendant les 10 années de guerre contre la Syrie, il n'y a pas une seule voix qui s'est élevée pour condamner les groupes terroristes qui tuaient, qui coupaient les têtes et qui mangeaient les cœurs des vivants, etc., qui détruisaient à la fois les églises, les mosquées, qui tuaient les chefs religieux. D'ailleurs, le dernier en date, le mufti de Damas, qui a été tué aussi par un attentat terroriste dans la banlieue de Qudsiyya de Damas, et ça continue, l'imam al-Bouti qui a été tué par eux, assassiné aussi alors qu'il était en train de faire un cours, en fait, religieux, dans la mosquée. Il y a eu donc il a été assassiné avec nombreux de ses adeptes qui étaient là. Donc en fait jamais une voix non occidentale, encore moins française, ne s'est élevée pour condamner ces pratiques des terroristes. Au contraire, pour eux, c'était ces terroristes-là, et ils le sont toujours d'ailleurs à Idlib. Les combattants de la liberté, ce sont des gens, les opposants syriens, ce sont des gens qui doivent être intégrés au pouvoir en Syrie, etc., etc. Je rappelle les propos de Laurent Fabius, Al-Nusra fait du bon boulot, ils font du bon travail. Et je rappelle aussi l'ensemble du soutien qui a été donné, fourni, etc. Les armes prétendument non létales de la bouche même de Laurent Fabius ont fourni seulement des lunettes nocturnes, etc. Et je voudrais rappeler aussi, lors de la libération de la route, à chaque moment qu'il y a eu une libération de territoire syrien de tous ces terroristes, l'agitation mondiale que faisaient les pays occidentaux qui les soutiennent pour les droits de l'homme, ce sont des malheureux, ils vont être tués à Idlib, à Alep, à la route, etc. tout était agité pour stopper l'avancée de l'armée arabe syrienne. Et aussi, les bombardements qui ont été faits effectivement contre l'armée arabe syrienne lorsqu'elle poursuivait Daesh du côté de Deir ez-Zor pour libérer, les bombardements américains sur l'armée arabe syrienne qui a tué 100 personnes, en fait, alors que Daesh était en train d'être défait. Donc, en fait, qu'on n'aille pas nous dire maintenant que l'Occident est contre le terrorisme, alors que ce sont eux qui les ont créés, les ont recrutés, les ont armés, les ont soutenus, les ont dirigés, parce que les services secrets de l'OTAN, de tous les pays de l'OTAN, avec le Mossad, et ils étaient en train de diriger les opérations de ces gens-là, aussi bien de la Jordanie, du Golan, de la Turquie et parfois du Liban aussi, parce qu'il faut dire aussi qu'ils étaient au Liban et qu'il y avait une très grande résistance à ce que les forces de Hezbollah libèrent le Liban de Daesh et de Al-Nusra.
Merci,
donc, en
Madame
fait,
Dali.
Tout ça, c'est une grande comédie. C'est eux qui ont créé les terroristes, c'est eux qui les ont soutenus et qui continuent à les alimenter. Je voudrais juste dire deux mots, permettez-moi, parce que le timing, le moment où ces attentats terroristes se font en Occident, c'est aussi un moment où les gens sont contre l'État en France, où il y a une très grande protestation contre l'enfermement et contre la muselière du Covid, etc., et contre l'instrumentalisation du coronavirus pour boucler les gens chez eux. Et paf, on amène donc un attentat terroriste qui ressemble plus à un attentat commandité pour provoquer encore des agressions contre les libertés individuelles et pour boucler les gens chez eux.
Merci, Madame
et
Dali.
Arrêter toute manifestation.
Merci, merci infiniment. Une toute dernière question à Monsieur le professeur d'Ortiguier, en 3 minutes, s'il vous plaît. Donc là, moi aussi, je tiens à rappeler que, comme Madame Dali d'ailleurs l'a souligné, ces terroristes qui ont été en effet créés par le service de sécurité et de renseignement des pays occidentaux. Et aujourd'hui, en ce qui concerne justement la lutte contre le terrorisme, c'est de l'imposture et de l'hypocrisie des autorités occidentales, y compris françaises, tout comme en effet ce principe de la liberté d'expression.
En effet, il s'agit de ce terrorisme islamique dont on parle, est un produit des laboratoires occidentaux, au sens très large du terme. C'est une machine de guerre, c'est un monstre qu'ils ont eux-mêmes créé, qui n'a rien de commun avec la réalité. Et je dois dire que je remercie tous les Français, si je puis dire, Madame Isani, d'avoir parlé également du contexte français, du contexte proprement économique et disons d'enfermement dans lequel nous sommes. Je dois dire que ces attentats que nous connaissons, cet émerveillement, cette rage contre la religion musulmane, fait partie, bien sûr, de ces instruments d'intimidation, voyez-vous, pour opposer les Français aux musulmans, les Français entre eux, disons. Et je dois dire que ceci est quand même, ne pourra pas durer quand même indéfiniment, et qu'il y a une conscience quand même qui se fait jour, tant dans la jeunesse que dans les gens, surtout de ma génération. Et je crois que, comme toutes ces entreprises du diable, et ce sont des stratagèmes, si je puis dire, mais les stratagèmes du bien, comme vous le savez, sont beaucoup plus importants et à plus long terme que les stratagèmes du diable.
Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Madame Aïssar Bidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Paris, merci infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Iran, pays des merveilles.
l'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parle ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. La semaine dernière, nous vous avons présenté quelques centres culturels qui se trouvent dans la capitale iranienne, dans le but de dresser un répertoire des centres de loisirs et de culture de cette ville. Cette semaine, nous poursuivrons notre randonnée dans les rues et avenues de Téhéran. Restez avec nous. La maison de la culture Khavaran, fondée il y a 12 ans. Le motif principal qui mena à la construction de ce centre culturel fut avant tout le constat fait à l'époque par la mairie de l'oisiveté de la jeunesse du sud-est de Téhéran. Actuellement, le centre culturel Khavaran ou Javan est l'un des foyers culturels les plus diversifiés de Téhéran, bâti sur une superficie de 83 000 mètres carrés et possédant 5 secteurs, dont un établissement administratif, un bazar de plein air, un bâtiment central, un secteur des sciences et des techniques et un parc d'attractions. Globalement, dans ce lieu, 4 activités principales chapeautent les autres. Artistique, pédagogique, sociale et culturelle. Ce centre dispose également de 4 grandes halles dont la capacité varie de 100 à 3000 spectateurs. Le secteur pédagogique de la Maison de la Culture de Khavaran offre 200 services de formation dans 47 aires distinctes de manière quotidienne et permanente, et si variée que tout un chacun arrive à y trouver son bonheur. Les cours d'art, de Coran, d'informatique, de langue, d'art ménager, d'art plastique et d'artisanat n'en sont que quelques exemples. Elle met également à la disposition du public des comités scientifiques mêlant loisirs et la science de manière très performante. En font partie les associations de physique et d'astronomie ou encore le comité des expérimentations chimiques et d'informatique. Une riche bibliothèque de plus de 75 000 ouvrages et comptant plus de 58 000 adhérents accueille 24 heures sur 24 les chercheurs et lecteurs intéressés. Les enfants y trouvent aussi de quoi s'amuser et s'enrichir. Une bibliothèque dédiée aux enfants avec plus de 15 000 livres et près de 3 000 adhérents constitue un terrain propice à leur familiarisation avec la lecture. Les enfants peuvent également y bénéficier d'une variété d'activités parascolaires comme la peinture et collectif, la lecture de contes, des visites guidées scientifiques ainsi que d'autres programmes ludiques. La bibliothèque digitale comptant plus de 150 millions d'articles, 700 000 mémoires et des milliers de livres numériques, la bibliothèque sonore avec 5 939 livres sonores, de grands salons d'exposition de peinture, des expositions scientifiques, d'immenses salons de cinéma et de théâtre, des salles de conférences et des amphithéâtres, un jardin de détente avec une maison de thé, une garderie et un grand bazar de 4 800 mètres carrés, un impressionnant aquarium et un centre de consultation juridique ou familiale, deux grands parkings, un gigantesque parc d'attractions et des centaines d'équipements sportifs, dont la majorité est gratuite, un terrain de football, une piste roller et des salons ouverts destinés aux sports d'hiver plaident en faveur de ce complexe multifonctionnel hors pair attirant. La maison de la culture du quartier Hashemabad a d'abord été construite en 1994 en tant que filiale de la maison de la culture de Khavaran, mais elle s'en est détachée peu à peu en organisant des programmes culturels, cours, ateliers et formations. Elle possède une bibliothèque digne d'intérêt, un atelier de peinture et une garderie. La Maison de la Culture, des Technologies et de l'Information située au croisement de la rue Jomhuri et Kargar est un établissement de 4 étages conçu pour promouvoir la technologie de l'information. Les cours de pratique et d'apprentissage de cette compétence, ICDL, les ateliers consacrés aux enfants, à Internet, à la programmation, aux logiciels graphiques, à Linux, aux divers matériels informatiques, aux logiciels conçus pour le génie et la technique, au génie du web, à Cisco, à la robotique, à l'astronomie, aux arts plastiques, au marketing et aux technologies de l'information n'en sont que quelques exemples. Ce centre accueille également des comités dans d'autres domaines comme la littérature, la photographie et l'astronomie. On y trouve également des séminaires spécialisés portant sur les sciences de l'information et ouverts au public. La Maison de la Culture de Niavaran. Elle fait partie du complexe Niavaran situé au nord-est de Téhéran. Construit sous les Pahlavis, sur une superficie de 110 mètres carrés, ce bâtiment est unique en son genre, notamment du fait de sa belle architecture qui évoque l'art contemporain iranien. Après la révolution islamique, sa gestion fut confiée au ministère de la Culture et de la Guidance et jusqu'en 1985, on n'y enseignait que la traductologie. Il fallut attendre 13 ans pour que d'autres disciplines puissent y retrouver leur place et en l'espace de 3 semestres, 180 apprenants ont été diplômés de ce centre. Les ateliers de graphisme, de sculpture, de peinture, de cinéma, la rédaction de scénarios et l'apprentissage de la miniature font partie des activités qui attirent le plus le public. La Maison des artistes, située au sein du Parc des artistes, est l'un des centres culturels les plus importants et les plus fréquentés de Téhéran. On y organise des séances de projection de films, des téléthéâtres et des théâtres de tout genre. Les grandes expositions artistiques, notamment centrées sur les arts plastiques, la peinture ainsi que le graphisme, la photographie et la sculpture, font le charme de ce complexe artistique. C'est également un lieu idéal pour l'organisation de concerts et de séminaires et on y voit fréquemment s'y dérouler des réunions intellectuelles, artistiques et littéraires. Elle possède 3 halles, une salle d'exposition, un atelier, un bazar, une maison de thé et un café très fréquenté. Citons également la Maison de la Culture de Khanevadeh, centrée sur les activités artistiques, théâtrales et musicales, la Maison de la Culture de Daneshchou, spécialisée en peinture, poterie et artisanat iranien, le Centre culturel de Dohtaran, doté d'une salle d'exposition, d'une bibliothèque et d'un salon d'exposition de peinture, la Maison de la Culture de Rezvan, où l'on réfléchit sur les questions philosophiques et existentielles, la Maison de la Culture de Sarv, connue également pour son centre musical, le Centre culturel du Coran qui aide à la promotion de la pratique coranique et de la théologie et qui comprend notamment une salle de cinéma, un musée ainsi qu'une bibliothèque spécialisée, la Maison de la culture de l'enfant qui organise des activités diverses pour les enfants avec notamment la narration de contes ainsi que des ateliers de musique, de théâtre et de langues étrangères. La Maison de la culture virtuelle, très originale en son genre, qui offre des services à distance aux usagers comme la diffusion d'informations culturelles, sociales et artistiques, la publication d'hebdomadaires, l'organisation d'expositions et de visites guidées virtuelles et qui comprend un forum et un magasin virtuel. Puis enfin, la Maison de la culture des nations, le Centre culturel de la jeunesse, la Fondation de la science et de l'art, la Fondation scientifique de Zirakzadeh et celle de Parviz Shahriar sont d'autres exemples de centres de loisirs et de la culture à Téhéran.